et bienvenue sur CFM pour cette émission des Messagers du Cheval. Une émission consacrée aux équidés de toute race et à ceux qui s'en occupent et s'intéressent à eux. Aujourd'hui, nous allons parler d'art et tout particulièrement d'une sculpture, la plus grande sculpture d'équidés au monde. Il s'agit de The Kelpies, l'une des plus grandes œuvres d'art proposées au public au Royaume-Uni et qui fut dévoilée le 21 avril 2014. The Kelpies représente deux immenses têtes de chevaux, et immense est bien un moindre mot, car elles font 30 mètres de haut et pèsent 300 tonnes chacune. Elles se dressent près de Falkirk, en Écosse, et font partie d'un projet de réhabilitation du site de Helix Park, projet qui a coûté 43 millions de livres, avec un budget qui comprend les deux sculptures qui, à elles seules, en ont coûté 5 millions. The Helix Development Project a été financé par The Big Lottery Fund, The Falkirk Council et les Scottish Canals. Le parc s'étend sur 300 hectares de forêt, de chemins et de pistes cyclables entre Falkirk et Grangemouth, là où se trouvait autrefois, avant travaux, un terrain laissé en friche à proximité de la raffinerie de Grangemouth. C'est le sculpteur écossais Andy Scott qui en est l'auteur. Diplômé de l'école d'art de Glasgow, il s'est spécialisé dans des œuvres de 5 à 10 mètres d'envergure, essentiellement équines, même s'il sculpte d'autres animaux et des figures humaines. Il y a une connexion presque spirituelle entre les humains et les chevaux qui remonte à des millénaires, explique-t-il. Et cela a été célébré par des artistes depuis la préhistoire. J'imagine que je continue modestement le travail accompli par ces artistes. Que veut dire le nom Kelpie, ici au pluriel? Eh bien, selon les légendes écossaises, un Kelpie est un esprit de l'eau qui peut changer de forme. Le mot Kelpie provient des mots écossais Kelpitch ou Kolpatch qui signifie génisse ou poulain. On dit que les Kelpies hantent les rivières et les courants, généralement sous la forme d'un cheval ou d'un poney. Mais attention, ces esprits ne sont pas bien intentionnés. Le gentil poney près de la rivière qui attire les enfants va leur faire découvrir un monde bien peu agréable, car dès qu'ils monteront sur son dos, ils ne pourront plus en descendre. Le Kelpie entraînera le malheureux enfant au fond de la rivière et, selon les légendes les plus cruelles, il le dévorera. Ces esprits peuvent également prendre forme humaine, ce peut être une belle jeune femme ou une créature poilue. Dans tous les cas, c'est la mort qui attend ceux qui croisent la route des Kelpies. Mais les Kelpies étaient également renommés pour leur force et leur endurance qui égalait, dit-on, celle de 100 chevaux. Et c'est cette même force et endurance qui caractérisait les chevaux qui ont participé à l'essor industriel et économique de cette région et qui est à l'origine du projet. Mais ces sculptures ont également été inspirées par deux géants nettement plus gentils, les chevaux de race Clydesdale, Duke et Baron. Ces deux chevaux, à eux seuls, rendent hommage à tous les chevaux qui tiraient des chariots, remorquaient des péniches et des bateaux transportant du minerai de fer, du charbon et des marchandises, notamment le long des canaux depuis Falkirk jusqu'à Édimbourg, Glasgow et au-delà. C'est pour cela que les sculptures ont été érigées le long du canal de Forth and Clyde. Si le concept originel du projet, centré autour des légendaires chevaux de l'eau, était un bon point de départ d'un point de vue artistique, Andy Scott a choisi cependant de le faire évoluer. Pour lui, les Kelpies, je cite, « témoignent de ce que l'on a réussi à faire dans le passé, c'est un hymne à l'artisanat et à la construction mécanique, ainsi qu'une déclaration d'intention au futur de l'Écosse ». Pour les concepteurs du Helix Development Project, c'est une autre sculpture d'Andy Scott qui les a poussés à choisir le sculpteur, outre le fait qu'il soit écossais. En effet, Scott avait réalisé Heavy Horse, que l'on pourrait traduire par cheval de trait, une œuvre qui se trouve à proximité de l'autoroute M8 dans l'est de Glasgow. Cette sculpture de 4,5 mètres, inspirée par les chevaux Clydesdale, a une structure en acier inoxydable. Pour Scott, elle représente la transformation d'une ville qui s'est développée grâce à l'industrie lourde et à l'industrie de transformation et qui, aujourd'hui, est plus connue pour son festival des jardins, ses foires, ses centres d'appel et ses industries de services. Ce que Scott explique par cette métaphore, Autrefois, c'était une bête de travail et aujourd'hui, elle n'est plus qu'un cheval de concours. C'est donc cette sculpture, Heavy Horse, qui lui a valu d'être choisie pour créer les Kelpies, car elle célébrait déjà le lien entre les chevaux de trait et l'histoire industrielle de la région. Pour incarner ces chevaux, Scott a fait des choix concernant les matériaux qui s'inscrivent également dans l'histoire de la région. Je cite « On a délibérément utilisé des matériaux qui étaient au cœur des anciennes industries écossaises. Leur esthétique est industrielle, avec des colonnes structurantes et des poutres visibles à travers les plaques d'acier découpées au laser qui forment la peau. Les crinières sont un assemblage de plaques d'acier imbriquées les unes aux autres. Les structures seront illuminées de l'intérieur et offriront ainsi un spectacle étonnant le soir et la nuit. » Nous allons maintenant écouter Fisherman Blues du groupe The Waterboys, créé par le chanteur écossais Mike Scott.
Tumbling on the seas, far away from dry land and its bitter memories, casting out my sweet life with abandonment and love. Love, ceiling bearing down on me, save the starry sky above with light in my head. You in my
600 tonnes d'acier ont été nécessaires pour fabriquer les kelpies. En effet, chaque sculpture est composée de centaines de petites plaques d'acier découpées à la main et soudées sur un squelette de barre d'acier. L'une des têtes représente une tête dressée vers le ciel, l'encolure tendue, la bouche entrouverte dans un hennissement sourd, alors que l'autre est celle d'un cheval plus tranquille qui a l'air au repos. Les sculptures sont composées en trois parties. Un premier cadre, puis une deuxième structure faite de tubes d'acier qui se développe par-dessus le premier afin de soutenir la peau extérieure, enfin le revêtement en acier inoxydable qui forme la peau elle-même. Pour faciliter sa fabrication, le sculpteur Andy Scott a créé en 2008 une version miniature des chevaux mesurant 3 mètres. Elles ont été ensuite scannées à l'aide de lasers afin de créer des images numériques en 3 dimensions. À partir de ces images, les fabricants d'acier ont pu découper les pièces dans leur taille définitive. La fabrication a commencé dans le Yorkshire en septembre 2012. Ces pièces sont 10 fois plus grandes que les originaux qui ont servi de modèle. La méthode ainsi utilisée est similaire à celle qui est utilisée en construction navale. Construites en acier, les pièces ont ensuite été immergées dans une vaste cuve de zinc. Elles sont ainsi galvanisées et protégées de la corrosion avant d'être assemblées. Une fois tous les éléments découpés, ils ont été transportés à bord de toute une flotte de camions jusqu'au site où les sculptures devaient être érigées. Ce site a été préparé en avance avec des fondations. 1200 tonnes de béton ont été coulées à plus de 30 mètres de profondeur. Au cours de l'été et de l'automne 2013, une équipe de 10 monteurs spécialisés dans le travail de l'acier s'est mise au travail afin de donner vie aux sculptures. On estime que chaque tête comporte 18 000 éléments. 2160 heures ont été nécessaires pour les monter, soit environ 90 jours. Les derniers éléments à être assemblés ont été les plus complexes, c'est-à-dire les oreilles, les nez et les mâchoires du cheval qui hennit. Les plaques sont découpées en leur centre de façon irrégulière. Elles forment ainsi une sorte de dentelle d'acier. Pour Andy Scott, ces espaces et celui qui existe entre les plaques soudées les unes aux autres est aussi important que les surfaces en acier elles-mêmes, car, dit-il, cela crée un mouvement dynamique. La lumière peut circuler à travers l'œuvre d'art et parfois nous installons même des lumières dans les sculptures afin de créer une impression visuelle qui va étonner ceux qui les voient. Et cela fut particulièrement vrai lors de la soirée d'inauguration, lorsque des pyrotechniciens français ont mis en valeur les sculptures au cours d'un spectacle d'une quinzaine de minutes comprenant des jets de flammes imposants, des projections de lumière et de vidéo, le tout souligné par une bande-son permettant d'entendre de véritables chevaux. Depuis 2013, les kelpies signalent l'entrée vers la Grande-Bretagne depuis l'Écosse, gardant l'entrée du canal qui relie la Firth of Forth et la Clyde à Glasgow, et elles sont visibles depuis l'autoroute M9. Au départ, le projet était très ambitieux car leur fonction n'était pas seulement ornementale. Les sculptures devaient faire également fonctionner la première écluse du côté est du canal près de Falkirk. L'une des têtes devait se balancer de 5 mètres en avant pendant que l'autre faisait de même en arrière, ce qui aurait permis de faire rentrer de l'eau dans le canal et au bateau d'y naviguer. Mais comme le projet mettait du temps à se mettre en place, il fut décidé d'écarter les têtes l'une de l'autre pour des raisons de résistance au vent. Puis, en juin 2011, il fut décidé d'abandonner ce projet. Pourtant, quelques années après l'inauguration, une extension du canal vers le canal Forth and Clyde et un bassin au pied des kelpies ont été créés. Cela permet maintenant au bateau de tourner pour passer l'écluse et de jeter l'ancre à côté de celle-ci afin de relier le canal à la rivière Carron. Le succès des kelpies a été phénoménal. Près d'un million de personnes ont pu visiter les sculptures depuis leur inauguration, car on peut pénétrer dans leur base pour les voir de l'intérieur et mieux comprendre leur agencement. En 2015, l'année où elles furent officiellement inaugurées par la princesse Anne, plus de 50 000 personnes avaient participé à des visites guidées à l'intérieur des sculptures. On estimait également qu'elles avaient dopé l'industrie locale avec un bénéfice de 1,5 million de livres sterling en un an. Andrew Scott ne pouvait que se réjouir d'un tel engouement du public. Je cite « Je suis particulièrement heureux car cela démontre l'effet régénérateur que les œuvres d'art publiques peuvent avoir et il semble que cela ait créé un sens de la fierté civique tangible dans le coin. » Il faut également ajouter que les sculptures ont reçu de nombreuses récompenses, comme le SSDA Award, qui récompense les constructions en acier au Royaume-Uni. Elles ont également reçu la World Canals Award, qui récompense les projets inspirants, innovateurs et intéressants à proximité et le long de voies navigables. Par ailleurs, elles ont été désignées comme trésor national de l'Écosse par la National Lottery. Pourtant, cela n'était pas gagné d'avance. Le crash financier de 2008 a menacé le projet et un article paru dans le Scottish Times le condamnait en déclarant que c'était un immense gâchis de l'argent public, auquel il faut ajouter les problèmes politiques et bureaucratiques qui se sont ajoutés aux difficultés liées à la taille des structures. Aujourd'hui, Andy Scott vit à Philadelphie, où il continue à développer des projets d'envergure qui comptent de nombreuses sculptures de chevaux. Quant aux Kelpies, leur succès demeure spectaculaire, comme celui du parc Helix. Un succès au service des communautés locales qui a redonné vie et fierté à une région du centre de l'Écosse qui en avait bien besoin. Notre émission est terminée. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.